Salut tout le monde, bienvenue à notre épisode de C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu Dr Rousseau, qui est un chirurgien thoracique et un chirurgien en trauma aussi qui travaille, et à McGill et à Sacré-Cœur, pour l'Université de Montréal.
C'est une discussion super intéressante, comme d'habitude, mais particulièrement dans ce cas-là, parce qu'on a vu un peu l'évolution de ce qu'il voulait faire, mais pas avant qu'il rentre en résidence. Ça, il était pas mal sûr, mais une fois qu'il est en résidence, puis patron, comment sa pratique, puis ses intentions derrière sa pratique a évolué. C'était vraiment beau à voir, puis intriguant comme parcours.
Oui, puis c'est rassurant pour nous qui essaient de choisir notre spécialité. Là, il nous dit, dans le fond, t'sais, le choix, c'est pas tant un big deal que ça. Là. Fait que si vous cherchez à être rassuré, écoutez ça. Bon épisode!
Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Fait que merci, Dr Rousseau, d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
Vous, si on revient un peu au départ, là, est-ce que vous avez entré en médecine directe du cégep ou est-ce que vous avez fait comme un bac avant?
Non, moi, je suis rentré en pré-med.
Pré-med?
Je viens de l'Est du Québec, là, du bas du fleuve, fait que, de Rimouski, puis j'ai fait mon cégep. J'ai fait mon cégep à Rimouski, puis mon secondaire à Sept-Îles. Puis après, je suis rentré en pré-med à McGill.
À McGill, OK. Ouais.
Est-ce que vous aviez toujours su que vous vouliez faire de la médecine?
Non, mais en fait, je voulais pas faire de la médecine nécessairement. Au secondaire, puis au cégep, ce que j'aimais vraiment, c'était les sciences. J'étais curieux, puis j'aimais tout ce qui était en lien avec les sciences, mais surtout la physique. Je préférais vraiment physique dans ce temps-là, puis les maths, puis ces affaires-là. Mais j'avais quand même j'ai eu un prof de bio au cégep. Un monsieur qui s'appelait Gérard Henry, que lui, ça a vraiment comme été une inspiration pour moi. Fait que là, je me suis comme retrouvé un petit peu en physique, mathématiques, puis bio, puis j'étais comme pas sûr qu'est-ce que je voulais faire entre les deux. Mais tu sais, je me voyais comme un jour devenir astrophysicien ou étudier l'exobiologie en Arctique, quelque chose comme ça. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Puis j'avais appliqué à McGill en physique. Fait que je m'en allais à McGill en physique. Je voulais aller à McGill parce que vu que je venais d'une région, je parlais pas vraiment anglais. Puis je m'avais dit, OK, en fait, mes parents m'avaient fait comprendre que c'est vraiment important d'apprendre l'anglais. Tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir vu mon père étudier l'anglais le soir, tous les soirs, pour pouvoir comme monter dans sa job. Ça avait resté avec moi qu'il fallait que je sois meilleur en anglais. Fait que je me disais, OK, en allant en physique à McGill, en anglais, ça va régler ce problème-là. Mais tu sais, comme n'importe qui, quand tu es au cégep et tu as des bonnes notes, ben, ils disent, tu devrais appliquer en médecine aussi. Fait que j'avais appliqué aux deux. Puis, au bout du compte, je m'avais dit, OK, c'est peut-être plus facile de rentrer en médecine, puis si en fin de compte, j'aime pas ça, je retournerai vers la physique que le contraire. Fait que c'est pour ça que je suis allé en pré-med, puis en fin de compte, j'ai jamais regardé, j'ai jamais rechangé.
C'était comment l'adaptation? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur d'appliquer à McGill à cause de l'anglais, puis d'étudier en anglais. C'était comment ça au début?
Ouais, ben c'est sûr que la première année, tu sais, c'était un challenge, là, c'est clair. Juste d'avoir toute ta lecture en anglais, puis tout ça. Mais quand même, tu sais, ça n'a pas été si mal, là, puis j'étais vraiment pas le meilleur, là, fait que, tu sais, je partais quand même d'assez loin, puis ça a été faisable, là. Puis après, pour moi, ça a vraiment été une bonne décision, parce qu'aussi, tu sais, je suis rentré dans un milieu que quelqu'un qui venait d'une région, c'était vraiment, tu sais, ma classe de primaire, dans ce temps-là, les classes étaient plus petites, là, je pense qu'on était 50, 60 en primaire. Tu sais, le background de la majorité des gens était tellement différent du mien que ça m'a vraiment ouvert plein d'horizons, puis j'ai vraiment, vraiment trippé là, à ce moment-là. Fait que non, c'était une bonne adaptation, mais ça s'est bien fait.
Good. Puis est-ce que vous aviez une idée de, mettons, une fois dans la première année, aviez-vous une idée de dans quoi vous vouliez vous enligner dans la médecine?
Ouais, ben à la fin, dans le fond, à la fin de mon année pré-med, j'ai commencé à faire comme un projet un genre de projet de développement, projet de recherche avec l'équipe de trauma à l'hôpital général de Montréal. Puis ils m'ont comme embauché pour passer l'été dans la vieille salle de trauma qu'il y avait dans l'hôpital avant à filmer tous les cas de réanimation. Fait que j'ai passé une année.
Les vrais cas, là?
Ouais, filmé tous les cas. Ouais. Il y avait comme une caméra en haut, puis là, on faisait le montage de tout ça. Fait que j'ai passé l'été à filmer des traumas. Okay. Puis je connaissais pas la trauma du tout, je savais pas c'était quoi. Puis là, je me suis retrouvé à faire ça, puis tu sais, toute la journée, j'étais dans la salle de réa. Puis le soir, je checkais des vidéos, puis là, je trouvais ça complètement capoté. Fait que, après avoir vu ça, dans ma tête, c'était clair que je voulais devenir traumatologue. Je me suis dit, OK, c'est sûr, peu importe ce que j'ai besoin de faire, c'est ce que je vais faire. Puis, tu sais, surtout en pré-med, t'as pas encore été exposé vraiment aux cliniques.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai vraiment été. Moi, je trouvais ça impressionnant à ce moment-là parce que tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a un patient qui arrive, puis c'est chaotique, puis c'est sur le bord de la mort, puis il y a du sang partout, puis il y a comme 20 personnes, puis à un moment donné, pff, tout devient organisé, puis là, c'est correct. J'étais comme, wow! Ce que ça prend pour être capable de transformer une situation aussi chaotique, désorganisée, en comme quelque chose qui est réglé, la formation que ça doit prendre, je me suis dit, wow, c'est vraiment impressionnant, c'est ce que je veux faire de ma vie. Fait que ça c'était comme en pré-med, c'est ce que je m'avais dit.
Quand même, fait que c'est arrivé assez tôt.
Oui, c'est arrivé vraiment tôt.
Mm-hmm. Puis là, de là, qu'est-ce que vous avez fait pour être capable, mettons, de
ouais, ben, de marcher? Fait que, tu sais, pour devenir traumatologue, c'est à travers la chirurgie. Fait que, tu sais, faut que tu deviennes chirurgien général. Puis dans ce temps-là, c'est un petit peu, je sais pas si c'était plus facile, mais... on pouvait faire nos électifs, on pouvait faire beaucoup, beaucoup d'électifs dans la même spécialité. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai tout fait mes électifs en chirurgie générale, puis le plus possible en traumatologie, mm-hmm. un petit peu partout, je me suis promené un peu partout au Canada, dans les différents divisions de chirurgie générale pour voir un peu où est-ce que je voulais aller. Mais, tu sais, c'était vraiment, j'étais en ligne vers la chirurgie générale. Puis quand j'ai commencé à faire ça, mettons les premières années là, de l'externat, là tu rencontres, tu vois un peu les résidents qui font ça, puis ça c'est la même chose, je voyais, je me souviens de voir des résidents seniors, les R4, les R5, les résidents chefs en chose générale, puis là, OK, c'est la personne que je veux être. Fait que pour moi, ça c'était clair après.
Puis est-ce que vous avez appliqué partout au Canada, juste au Québec?
Ouais, j'avais fait, c'était la tournée qu'on faisait, c'était en personne, là, fait qu'ils partaient de l'Ouest jusqu'à l'Est, je me souviens plus, je pense que c'était 13 écoles, là. Puis ils faisaient toutes une après l'autre. Fait que, c'était vraiment, vraiment le fun. Les gens, parce qu'on est comme un petit groupe d'appliqués partout au Canada, fait que tu pars à Vancouver, puis je pense que c'était comme sur une période de peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines. Puis c'était à toutes les 2 ou 3 jours, les entrevues. Fait que tu sais, t'es à Vancouver, t'es avec, je sais pas, une trentaine de personnes. Le lendemain, tu prends tout l'avion, tu te retrouves tout à Calgary. 2 jours plus tard, t'es à Edmonton, après ainsi de suite jusqu'à Terre-Neuve. Fait qu'on a comme passé 3 semaines tout ensemble à faire toutes ces entrevues-là. Puis après 2 ou 3 entrevues, c'est comme c'est tout le temps la même affaire. Fait que t'es comme plus stressé. Peut-être à part pour elle que tu veux vraiment aller, mm-hmm. mais le reste, t'es comme plus stressé. Fait que tu développes des amitiés là-dedans, puis il y a des gens encore que tu rencontres, puis on se parle de ces histoires de ça, ben ça reste. Fait que ça, c'est une belle expérience.
Vous avez match où à la fin?
C'était à McGill. Je voulais rester à McGill. Principalement à cause des gens que j'avais rencontrés. Mm-hmm. T'sais, pour moi, c'est un peu la même chose. Là. Un peu partout où est-ce que je me suis retrouvé, c'est que j'ai vu des gens que je me suis dit, OK, je veux être comme cette personne-là. Puis là, ça devient tes mentors, ça devient des modèles. Puis à McGill, tu sais, dans ce temps-là, il y avait un chirurgien qui s'appelait Dave Evans, puis il y a Tarek Razek qui était le chef de la trauma. Puis je me suis dit, OK, ça, c'est les personnes avec qui que je veux travailler. Puis il y avait d'autres mondes. Puis à cause de ça, je voulais rester. Puis aussi, tu sais... la chirurgie, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment... c'est comme tu fais partie d'une équipe. Puis moi, j'ai fait du sport d'équipe. Puis je trouvais qu'il y avait cet élément-là. Puis à McGill, je connaissais déjà un peu l'équipe parce que je connaissais l'équipe de résidents. Fait que c'était comme la possibilité de faire partie de cette équipe-là. Je trouvais ça attrayant.
Mm-hmm. Puis c'était comment... parce que la chirurgie générale, vous faites pas juste du trauma quand vous rentrez en résidence. C'était comment faire toutes ces années de résidence-là en sachant qu'au bout du compte, c'est le trauma que vous voulez faire puis qu'il y a peut-être certains d'autres types de cette chirurgie-là qui vous intéressaient moins?
Moi, j'ai vraiment adoré tout le long, tout ce que j'ai fait. Là. Puis même, tu sais, c'est vrai pour la médecine, là, pour être honnête, quand je faisais mes rotations de médecine, tu sais, je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais c'est quand j'étais en psychiatrie ou en médecine de famille ou en gériatrie, j'aimais ça, ces rotations-là, là, tu sais. Puis certainement, en chirurgie générale, tu sais, c'est vaste. Puis il y a toutes les sous-spécialités, je les ai toutes trouvées intéressantes, puis j'aimais ça les faire, puis j'ai changé un peu ce que j'ai fait aussi en cours de rôle. Là, je me suis rendu compte que oui, il y a la trauma, mais il y a d'autres choses, fait que j'ai commencé à considérer d'autres affaires, puis aussi, ce que tu veux faire change, puis les raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose dans la vie changent avec le temps, fait que, en voyant ces spécialités-là, là, je me suis dit, OK, ouais, mais il y a la raison pourquoi j'aimais la trauma à la base. Ben, à un moment donné, ça devient moins impressionnant. Tu dis, OK, t'en as vu beaucoup. Tu dis, OK, je comprends la formule. C'est pas si impressionnant que ça. Fait que là, il y a d'autres choses qui t'attirent plus. Fait qu'il y a plein d'autres domaines de la chirurgie générale que j'aimais beaucoup. Puis une des choses qui m'avait attiré, oui, la trauma m'a attiré vers la chirurgie générale, mais une des choses qui m'a attiré en chirurgie générale aussi, c'était justement le fait que c'est super vaste. Tu sais, je me suis dit, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Il y a plein de sous-spécialités dans lesquelles tu peux aller. Puis aussi le fait d'être comme formé à faire plein d'affaires, d'être confortable dans différents milieux. Tu passes par les soins intensifs, tu passes par l'urgence. Dans mon temps, on faisait de la chirurgie cardiaque, on faisait de la vasculaire. Fait que tu sors de là et tu as vraiment l'impression d'avoir une bonne formation qui est vaste. Puis ça m'attirait aussi.
Puis moi, j'ai juste une question que j'ai accrochée à dessus. Vous avez dit que vous avez aimé un peu tout durant votre médecine. Moi, j'ai entendu souvent des commentaires en me disant « Si t'aimes quelque chose d'autre que la chirurgie, va pas en chirurgie. » Qu'est-ce que vous constatez ça? Parce que vous aimiez d'autres choses que la chirurgie, de ce que je comprends.
Ouais, ben moi, ce commentaire-là, je le dis à tous les externes qui passent sur mon service. Je leur dis tout le temps « Si tu considères d'autres choses, si tu considères et la chirurgie, et d'autres choses. » Je ne l'ai pas dit à toi aujourd'hui, mais si, pas encore. Mais si tu considères la chirurgie et d'autres choses, que tu te dis, je serais aussi heureux à faire quelque chose d'autre, fais quelque chose d'autre. Pour moi, ça, c'est clair. Tu sais, oui, j'ai tout aimé, mais il n'y a rien que j'aimais plus que la chirurgie. Puis, parce que, tu sais, si tu considères la chirurgie ou la médecine de famille ou la chirurgie et la radiologie, ben tu vas en radiologie ou vas en médecine de famille. Parce que la chirurgie, c'est quand même, c'est demandant. T'sais, la formation, elle n'est pas facile. En plus de la connaissance que tu dois acquérir une maîtrise technique. Tu dois devenir un expert d'une technique spécifique. Puis ça prend des heures. Ça prend un. Faut que tu sois dédié, faut que tu te commettes, puis c'est long. Fait que tu sais, c'est sûr que tu vas avoir plusieurs années de ta vie où est-ce que ça va être ton focus principal. Puis pendant ce temps-là, ben, tu vas avoir tes collègues qui sont en médecine avec toi qui, eux, vont finir leur résidence, puis vont commencer comme patron, puis vont avoir un meilleur train de vie, puis ils vont avancer dans leur vie personnelle. Puis toi, tu vas être encore résident, puis il faut que tu sois correct avec ça. Fait que. Je pense que ton commentaire est juste, puis je le dis souvent moi aussi.
Puis à leur part, est-ce que vous auriez fait un choix différent? Ou?
Non, c'est sûr que je ferais la même chose. Okay. Ouais, c'est sûr que je ferais la même chose.
La passion est quand même assez présente pour...
Ouais, ben tu sais, là, présentement, je fais pas seulement de la trauma, tu sais, j'ai fini par faire d'autres choses, mais... Puis tu sais, est-ce que je ferais peut-être... Il y a différents aspects de ma pratique personnelle que je pourrais imaginer faire d'autres aspects de ma pratique de thoracique, par exemple. Mais je passerai par le même processus. J'ai vraiment aimé ma formation, j'ai aimé ma résidence, j'ai aimé mon fellowship, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, si, mettons, tu me dirais, faut que tu retournes en résidence, en fellowship, c'est sûr que je le ferais. Là,
Je vais venir me mentionner thoracique, puis c'est ça, c'est la seconde branche qui vous intéressait en chirurgie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialité-là?
C'est la même affaire. Tu sais, j'étais résident. On fait nos années juniors dans le programme, puis après, il faut faire de la recherche. Bon, pas obligé, mais la majorité des gens vont prendre quelques années pour faire de la recherche. Fait que tu regardes les différentes possibilités. Puis moi, j'ai fini par faire de la recherche avec un chirurgien thoracique qui s'appelle Lorenzo Ferry à l'hôpital général. Puis lui, il faisait de la recherche, j'avais un labo de sciences de base, là, recherche fondamentale sur le cancer. Puis, fait que j'ai commencé à faire de la recherche avec lui, puis là, c'est comme devenu mon mentor. Puis, là, j'ai été attiré par la thoracique. Puis c'est à ce moment-là que là, je me suis dit, OK, c'est, en fin de compte, c'est ce que je veux faire. Fait que j'ai comme redirigé un peu mes plans, puis je me suis dit, OK, comment que je peux faire pour faire les deux? Puis il y avait d'autres chirurgiens thoraciques. Tu sais, il y a Dr. Mulder qui est à McGill, qui est vraiment un icône de la chirurgie en Amérique. Puis on a la chance d'avoir à McGill avec nous. Puis c'est un des chirurgiens thoraciques. Fait que lui aussi, tu sais, ça a été un modèle qui est assez d'imiter. Fait que c'est en rencontrant ces gens-là que là, je me suis dit, OK, la trauma, c'est pas suffisant. Je veux me concentrer sur la thoracique à partir de maintenant. Fait que c'est autour de R3, là, dans le fond, dans mes années R3, quand j'ai passé 2 ans à faire de la recherche, pendant ce moment-là, que j'ai comme redirigé un peu ma pratique.
C'est une combinaison qui se fait souvent, thoracique puis trauma?
Non, c'est inhabituel.
Ouais, ah ouais, inhabituel, okay, ouais. OK. Pourquoi pas... C'est quoi que les gens font d'habitude, mettons, pour être plus dans le trauma?
Ouais, fait qu'il y a beaucoup de chirurgiens trauma qui font les soins aigus ou les soins intensifs. Okay. Avec. Fait que ça, c'est super fréquent, là, la combinaison soins intensifs, traumatologue, c'est vraiment fréquent. Puis il y a beaucoup d'autres chirurgiens à Montréal que c'est ce qu'ils font dans leur pratique. Il y en a qui vont faire les soins aigus chirurgicaux avec la traumato aussi, mais la thoracique puis la trauma, c'est pas vraiment fréquent. Mais tu sais, à la base, si tu regardes l'histoire de la trauma, la façon que ça s'est développé comme spécialité, c'est assez récent, premièrement, comme spécialité. Tu sais, avant les années 80, début des années 90, la trauma, c'était un petit peu n'importe qui s'en occupait. L'urgentologue voyait le patient qui arrivait. Il n'y avait pas de standardisation des soins nécessairement. Puis si tu avais un trauma au rein, ben il appelait l'urologue. Puis si tu avais un trauma au cou, il appelait l'ORL. Puis il n'y avait pas une spécialité dédiée à ça. Mm. Puis ils se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas super bons de cette façon-là. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le développement d'une spécialité qui est la traumatologie. Il y a eu une standardisation des soins qui est le protocole d'ATLS, qui est comme une approche qu'on a pour les soins. Puis il y a eu une régionalisation des services où est-ce qu'ils se sont dit qu'il y a seulement certains hôpitaux qui vont pouvoir faire de la trauma, puis ont eu des centres dédiés. Puis ça s'est passé pas juste au Québec, là, ça s'est passé partout en même temps en Amérique. Puis c'est comme dans le début des années 90 que c'est arrivé. Puis au Québec, en fait, on est reconnu pour ça parce qu'il y a une grosse étude qui a été faite où est-ce qu'ils ont regardé les résultats des patients qui étaient blessés, qui avaient une blessure importante, là, un trauma majeur. Il y a comme une échelle qu'on utilise, mais l'important, c'est que c'est un trauma majeur dans 1 heure autour de Montréal. Puis avant ce changement-là, la mortalité moyenne, c'était 50%. Fait que si tu avais un trauma majeur, tu avais une chance sur 2 de décéder. Après la régionalisation des soins, la standardisation des soins, la sous-spécialisation des soins, la mortalité était descendue à 18%. Puis 5 ans plus tard, c'était à 9%.
Aïe, aïe.
Ça a vraiment eu un gros impact. Ouais. Puis mon point, c'est pour revenir à mon point initial, c'était que beaucoup des chirurgiens initiales, c'est les chirurgiens cardio-vasculaires thoraciques, CVT dans le temps, la spécialité CVT dans le temps qui existait, qui ont parti ce mouvement-là, dont Dr. Mulder. Donc, à la base, il y a eu beaucoup de chirurgiens cardio-thoraciques qui ont commencé à faire de la trauma. Fait que, de façon historique, c'est quelque chose qui existait. Maintenant, dans la pratique actuelle, c'est un peu particulier.
C'est vraiment intéressant, quand même, l'histoire derrière tout ça.
Ouais.
Puis, votre pratique actuellement, ça ressemble à quoi environ, les semaines, les mois, genre vos gardes? Quel point c'est occupé?
Je divise ma pratique entre soit de la thoracique ou de la trauma. Fait que, tu sais, en trauma, puis je travaille dans 2 endroits. Fait que je travaille à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, puis à l'hôpital Général. Mais mon lieu de pratique principal, c'est Sacré-Cœur.
OK.
Donc, quand je fais de la trauma, je la fais à Sacré-Cœur. Puis on est une grosse équipe à Sacré-Cœur. Je pense qu'on est autour de 8 traumatologues. Fait qu'on prend la semaine de garde à tour de rôle. Fait que quand c'est notre semaine de trauma, on couvre la garde pour la semaine, on couvre le service, on fait la fin de semaine, puis ainsi de suite. Puis sinon, quand je fais pas de la trauma, je fais de la thoracique. Puis de la thoracique, j'en fais à Sacré-Cœur et à McGill, puis je fais des semaines aussi. Fait que je fais comme l'équivalent d'à peu près une semaine par mois au général en thoracique. Puis quand je suis là, je fais juste, c'est tout ce que je fais pendant cette semaine-là. Puis sinon, le reste du temps, je suis à Sacré-Cœur en thoracique. Fait que c'est quand même assez divers, là. C'est les semaines se ressemblent peu entre elles. Puis la pratique aussi est quand même assez vaste. Fait que j'ai pas de semaine comme typique ou classique. Ouais. Là. J'ai pas comme un lundi, je suis en clinique, le mardi. Ça dépend à quel endroit je suis dans ces milieux de pratique-là.
Puis est-ce qu'en thoracique, normalement, vous avez des gardes aussi ou pas vraiment? C'est vraiment plus en trauma que vous faites ces choses-là?
Non, en thoracique aussi, on a des gardes. C'est sûr que les gardes de thoracique sont différentes. C'est différent aussi dans quel milieu que tu es. Les urgences sont différentes aussi. Tu sais, la thoracique, c'est vraiment une spécialité que c'est des gros cas. On a des gros cas oncologiques. Fait que quand ça complique, des fois, ça peut être occupé sur une garde. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'urgences qui vont rentrer à travers l'urgence qu'il va falloir que tu amènes au bloc. Il y en a, mais c'est pas super, super occupé sur une garde. Fait que c'est possible de. Ça prend pas tout mon temps, par exemple, si je garde.
Puis quand vous êtes de garde en trauma, est-ce que vous êtes à l'hôpital 24/7? Ou vous pouvez retourner chez vous, être sur appel? Parce que il me semble que s'il y a un trauma qui rentre, il faut que tu sois proche.
Oui, c'est une bonne question. Puis ça dépend où. Ça dépend à quel endroit tu es. Qu'à l'extérieur du Québec, dans les gros centres américains, par exemple, généralement, le chirurgien va être à l'hôpital. Puis des fois, même dans les gros hôpitaux, il y a deux chirurgiens à l'hôpital. Puis des fois, ça a des gardes de 12 heures ou de 24 heures. Au Québec, c'est sûr que la trauma, c'est moins occupé parce qu'il y a moins de... il y a moins d'accidents, il y a moins de trauma par balle, il y a moins de violence.
Moins de fusils.
Moins de fusils, oui. Fait qu'on... le volume, le débit n'est pas aussi important au Québec. Fait que ça dépend quelle garde qu'on prend, en fait. Parce qu'il y a une garde qui s'appelle le TTL, qui est le Trauma Team Leader, qui où est-ce que tu es la personne qui reçoit le trauma à l'urgence. Mm-hmm. Fait que lorsque je suis TTL, je reste à l'hôpital. Fait que ça peut être 12 ou 24 heures, dépendamment de ce que tu veux faire. Si tu es en chirurgie trauma, là, on a des fellows. Fait que généralement, je suis à la maison, mais il faut que tu sois à 20 minutes de disponibilité parce que, évidemment, si tu te fais annoncer qu'il y a une ambulance qui s'en vient, ben, tu te déplaces.
Puis, moi, je me demandais pour chirurgie thoracique, j'avais comme un peu entendu dire que c'est une des spécialités chirurgicales où c'est encore beaucoup de chirurgie ouverte. Là. C'est-tu vrai? T'sais, c'est quoi la proportion, mettons, des chirurgies que c'est ouvert?
Oui. Chirurgie thoracique, c'est vraiment intéressant là-dessus parce que c'est en train de changer beaucoup, beaucoup actuellement. Okay. C'est vaste là, parce qu'on couvre, c'est toute une région, fait que c'est beaucoup d'organes. Fait qu'il y a différents types d'opérations qu'on fait. C'est vrai que ça a été assez long, je pense, avant l'adaptation de. Par rapport à la laparoscopie est devenue beaucoup plus fréquente avant que la thoracoscopie le soit. Il y a encore probablement 6-7 ans, peut-être 40-50% des cas d'oncologie pulmonaire étaient faits de façon ouverte. Maintenant, c'est vraiment beaucoup moins. Puis dans un milieu d'expertise, dans un centre où est-ce qu'il y a une grande expertise, là, les grands milieux québécois, les gros centres québécois, la majorité des chirurgies qu'on fait, pour des cancers, par exemple, de bas stade, sont faits par thoracoscopie de façon minimalement invasive. Mais des fois, comme n'importe quelle chirurgie, on n'a pas le choix de le faire ouvert. Ouais. C'est sûr que de sortir un cancer de 10 cm à travers une incision de 2 cm, ça ne fonctionne pas. Fait que, des fois, on n'a pas le choix de faire de la chirurgie ouverte, puis on en fait. Moi, dans ma pratique, je fais beaucoup plus de chirurgie thoracoscopique que de chirurgie ouverte.
Ça a-tu changé au courant de votre...
Non, moi, je suis vraiment revenu... Même que quand j'ai commencé ma pratique, j'étais formé principalement en thoracoscopie, puis j'étais plus confortable quand j'ai commencé ma pratique en thoracoscopie que de chirurgie ouverte, parce que c'est ce que tu fais principalement dans ta formation. Mais tu sais, je me suis assuré d'aller dans un milieu de formation. Tu sais, je suis allé faire mon fellowship dans un endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de chirurgie thoracoscopique. Après mon fellowship, je suis parti dans un autre endroit pour faire comme encore plus de spécialisation en thoracoscopie. Fait que, je voulais vraiment m'assurer d'être confortable avec ça aussi. Puis oui, il y a encore des endroits, puis encore des chirurgiens qui opèrent de façon ouverte. Okay. Mais à un moment donné, ça, c'est par attrition. Là, avec le temps, ça finit par ça diminue. Puis les patients aussi sont de mieux en mieux informés puis le demandent.
Ils veulent le meilleur traitement.
On a des études randomisées maintenant qui nous disent clairement que thoracoscopie, c'est supérieur à la thoracotomie. Fait que, tu sais, il n'y a pas de débat, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement capable, qui a la possibilité de l'offrir. Mais en chirurgie thoracique spécifiquement, présentement, il y a vraiment un gros boom. Là. C'est vraiment en train d'exploser parce que les procédures qu'on fait sont en train de changer. La thoracoscopie, fine, mais aussi, avant, si tu avais un cancer, mettons en oncologie pulmonaire, on enlevait un lobe du poumon. Mm-hmm. Puis maintenant, on a des études qui nous disent qu'on peut enlever des segments de façon équivalente à un lobe. Fait que là, on pousse vraiment plus vers un autre type de chirurgie qu'on appelle des segmentectomies. Mm-hmm. Puis on fait des reconstructions plus complexes qu'on faisait pas nécessairement avant. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voyait peu fait de façon minimalement invasive il y a quelques années à peine. Puis certainement, là, tous les chirurgiens plus jeunes qui commencent, on pousse vraiment là-dessus. Fait qu'il y a une grosse... c'est vraiment très changé d'un point de vue technique, puis il n'y a pas autant de spécialités chirurgicales que ça qui changent d'un point de vue technique actuellement, mm-hmm. autant, je trouve. Puis si tu ajoutes à ça, tu sais, la robotique, si tu ajoutes à ça la réalité augmentée, puis l'intelligence artificielle qui vont s'intégrer à ces plateformes-là. Tu sais, c'est sûr que moi, ma pratique technique de ce que je fais actuellement, ce que je vais faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais que ça va être complètement différent. Puis c'est vraiment important comme chirurgien de suivre le changement parce que c'est super facile de commencer ta pratique, puis d'aller dans un endroit, puis d'avoir appris une chose, puis de faire ça pendant 30 ans.
Ben oui.
Puis tu sais, il y a personne au Québec qui t'empêche de faire ça. Si tu veux faire ça, là, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que, tu sais, dans 30 ans, là, tu te retrouves un peu un dinosaure. Fait que c'est vraiment important de se garder à l'affût puis s'assurer de pousser tes capacités puis tes skills puis d'essayer les nouvelles choses puis d'offrir puis les patients, ils veulent aussi.
Oui, c'est ça. Sinon, tu n'offres pas le meilleur à tes patients.
Ça, en thoracique, actuellement, c'est vraiment en train de changer d'un point de vue. Puis non seulement avec la chirurgie en tant que telle, mais aussi tout... comme toutes les approches qui sont moins invasives en l'endoscopie, la bronchoscopie, on traite beaucoup plus de cancers de façon endoscopique. Maintenant, l'investigation qu'on fait aussi en endoscopie, ça change beaucoup.
Ça, c'est-tu les pneumos ou c'est les chirurgiens?
C'est les deux. Okay. C'est les deux. Fait que ça dépend où est-ce que tu es. Certainement, dans notre formation, c'est quelque chose qu'on a fait. Puis tu te retrouves dans un milieu, puis il faut que tu regardes dans quel milieu tu es. Il y a des milieux qui vont vouloir que ce soit les chirurgiens thoraciques qui font. Dans d'autres endroits, ça va être les pneumologues. Des endroits où est-ce que ça va collaborer. Puis ça dépend aussi de toi, qu'est-ce que tu veux comme pratique. Mm-hmm. Parce qu'au bout du compte, la pratique d'un chirurgien thoracique est vraiment, vraiment différente. Où est-ce que tu te retrouves? Tu sais, il y en a qui vont focusser sur le cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac. Il y en a qui vont faire beaucoup d'œsophages bénins, par exemple des hernies à table, des choses comme ça. Tu peux te retrouver à faire beaucoup de cancers du poumon, il y a la transplantation pulmonaire, les maladies du médiastin, thymome, ainsi de suite, la paroi, la trachée. C'est vraiment vaste. Puis généralement, tu ne vas pas pouvoir faire tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui t'offrent cette possibilité-là, mais tu vas en faire quelques-unes. Fait que moi, mettons dans la liste que j'ai donnée, il y a comme 3 ou 4 affaires qui sont mon pain quotidien. Puis il y en a d'autres que tu fais moins souvent. Quand tu cherches ta job, il faut que tu gardes ça en tête.
Puis est-ce que vous avez l'impression que les habiletés techniques, vous avez un peu dit que vous devez toujours keep on, fait que vous êtes toujours en train de les développer. Il y a tout le temps ce challenge-là un peu de genre être le meilleur qu'on peut techniquement. Vous êtes jamais dans une zone où est-ce que vous êtes comme « OK, je suis confortable maintenant. »
Ouais, puis tu sais, c'est certainement ce que j'essaie d'éviter. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que lorsque j'ai fait ma chirurgie générale, une des raisons pourquoi je voulais faire ma chirurgie générale, c'était ça. Je voulais comme être dans un endroit où est-ce que je me suis dit, je vais être capable de tout faire, puis je vais être confortable, tu sais, puis je veux être raisonnable dans tout, polyvalent, ouais. Exact. Puis tu sais, j'avais considéré d'autres choses, puis je me suis dit, tu sais, de faire seulement une affaire tout le temps, ça m'intéresse pas. Tu sais, je veux pas être comme devenir un expert à faire un point spécifique, tu sais. je veux être capable de tout faire, puis ça, c'était une partie de ma pratique, c'était ça. Puis maintenant, où est-ce que je suis rendu dans ma pratique, c'est le contraire, tu sais. Je regarde les chirurgies que je fais, puis ce qui me fait triper, c'est des développes, tu sais, d'être capable de les faire le mieux possible, tu sais, de faire la lobectomie minimalement invasive comme la meilleure lobectomie possible, minimalement invasive, tu sais, peu importe la métrique que tu regardes, le temps, l'aspect technique, peu importe quoi, mais d'être capable de reproduire le même geste comme qui est efficace, qui est le meilleur geste possible de la même façon, moi, c'est ce qui me fait triper actuellement. Puis jamais, il y a 10 ans, jamais j'aurais voulu faire ça.
C'est drôle comment ça évolue avec le temps.
Oui, ça évolue vraiment. Puis dans la formation de chirurgien thoracique, il faut que tu fasses la cardiaque. Fait que tu vas faire une année cardiaque, une année thoracique. Puis ça, la cardiaque, c'est beaucoup comme ça. Mm-hmm. C'est la standardisation de la procédure. T'sais, ton anastamose, ça fait toujours de la même façon. Ton aiguille, ta place tout le temps de la même façon. Puis lorsque j'ai vu ça comme fellow, j'ai dit « wow, okay, il y a quelque chose à être capable de maîtriser un geste ». Puis c'est ce que j'ai appris de ma formation de cardiaque, c'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma thoracique, de dire « ok, je veux vraiment essayer de pousser puis devenir un expert sur un geste spécifique, sur une technique spécifique ». Puis à travers ça, ben c'est sûr que quand on arrive à un endroit, puis là, tu dis « OK, là, je veux intégrer quelque chose de nouveau. »
Comment vous intégrez justement ces nouvelles choses-là? Tu sais, des fois, on se dit « Les staffs, c'est eux les pros, là. Tu sais, où est-ce que vous allez chercher les plus pros encore?
» Ouais, ben tu sais, il y a différentes façons de le faire, puis il y a des choses, des fois, même que tu penses pas qu'elles existent quand t'es résident, mettons, hein, tu sais... certainement, moi, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais été exposé, mais travailler avec l'industrie, tu sais, quand t'es résident, t'as pas vraiment cet aspect-là. Mais quand tu deviens patron, l'industrie est présente autour de toi, ils ont des technologies qui eux, ils apportent, qui sont à différents stades de développement, puis t'as des opportunités qui se présentent à toi, des fois, de soit les intégrer dans ta pratique tôt, ou même de travailler avec eux pour développer certaines technologies-là. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu la chance de faire, puis j'adore faire ça. Puis c'est une façon de pousser un peu ce que tu fais.
Ton domaine.
Ton domaine. Mais tu sais, il y a différentes façons de le faire, puis... c'est un exemple un peu drôle, mais... dans ma formation, il y a un chirurgien cardiaque avec qui j'étais, qui à chaque journée, quand on arrive au bloc, il me dit « Ok, aujourd'hui, t'as pas le droit d'utiliser tel instrument. » Puis l'idée, c'était juste de se dire « Ok, tu sais, comment penser d'adapter ce que tu fais? » Fait que, il y a des petites choses comme ça que les gens font des fois pour essayer de pousser ce que tu fais. Puis certainement, j'ai des collègues que je sais qu'à chaque fois, ils essaient de faire les choses un peu différemment ou ils essaient quelque chose de nouveau justement pour pousser leur expertise. Mm. Puis à un moment donné, ils arrivent puis il y a une technologie qui est imposée puis tu dis « Ok, ben, t'sais, la robotique, on n'a pas le choix de le faire. » Puis d'autres technologies comme ça qui s'en viennent aussi. Fait que des fois, t'as juste pas le choix de suivre le courant.
Plus tôt, vous avez mentionné que pendant la résidence puis les fellowships, vous mettez un peu votre vie sur pause pour genre vous concentrer sur la chirurgie. C'est comment une fois que vous êtes patron? Est-ce que votre vie est encore sur pause pour la chirurgie ou c'est plus facile d'avoir d'autres choses en même temps?
Mais tu sais, je sais pas si sur pause c'est le terme exact. Là, tu sais, certainement, j'ai eu une vie pendant ma résidence puis mon fellowship, mais c'est sûr que tu focus, c'est ton focus principal. Mais tu sais, tu peux faire d'autres choses. J'ai eu un enfant pendant ma résidence. C'est pas impossible, mais c'est demandant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une fois que tu deviens patron, c'est vraiment une autre histoire parce que tu décides quel type de pratique que tu veux avoir. T'sais. Peu importe la spécialité chirurgicale, vraiment. Ta spécialité va avoir un impact, mais surtout ton milieu de pratique puis le groupe avec qui tu vas travailler. T'sais, ma conjointe est elle aussi chirurgienne. Elles sont un groupe de 13 chirurgiens. Fait que, tu sais, la garde, c'est une sur 13. Puis le reste du temps, ben c'est son horaire à elle. Moi, je travaille dans des groupes qui sont plus petits, sauf que, tu sais, ma responsabilité envers l'hôpital, c'est ma garde. Fait que si on est trois, ben c'est une semaine sur trois. Mais les deux autres semaines, c'est un peu ce que toi, tu désires faire. Puis si tu veux faire de l'éducation, si tu veux faire de la recherche, si tu veux avoir une clinique... une pratique qui est cliniquement occupée, ben, tu peux le faire, mais si aussi tu veux être pas mal plus relax, tu peux aussi le faire. Puis il y a certains endroits que c'est mieux, c'est plus facile que d'autres, mais il y a certainement une flexibilité associée à ça, mais faut que tu choisisses le milieu en conséquence.
Ouais.
Puis est-ce que, mettons, les chirurgiens qui se fait plus longtemps qu'ils pratiquent, ils ont-tu justement la possibilité un peu de réduire... tu le regardes avec le temps. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se freinent d'aller dans certaines spécialités par peur de quand ils vont être comme rendus plus vieux puis un peu avoir moins d'énergie.
Puis tu sais, je pense qu'on en connaît tous là, des chirurgiens que ça fait longtemps qu'ils travaillent puis qui vont encore au même rythme. Je pense que si ça change avec le temps, tu sais, la culture change, je pense que la balance vie-famille est plus présente qu'elle était peut-être à l'époque de ces gens-là qui ont passé à travers le système. Généralement, dans les endroits, tu sais, après, tu as fait ton temps, tu fais peut-être plus de garde, tu arrêtes de faire de la garde après une couple d'années, tu diminues ton débit, peut-être tu opères moins, tu te concentres sur certaines choses, peut-être tu fais plus d'administration, tu as certaines autres responsabilités, mais qui te demandent moins d'aller à l'hôpital tout le temps, par exemple. Je pense que ça dépend des personnalités. C'est sûr que ces jobs-là, ça attire un certain type de personnalité souvent. Mais si tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais quel type de pratique tu peux avoir, je pense que c'est possible de l'avoir.
C'est intéressant.
Puis, qu'est-ce que. Tu sais, c'est quand même des spécialités qui sont contingentées, là, je pense, à la chirurgie générale, puis même dans la chirurgie générale, la traumatologie. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui s'intéressent là-dedans, qui aimeraient ça là-dedans pour, genre, se démarquer?
Ces temps-ci, je trouve ça vraiment impressionnant parce que c'est certainement plus difficile de rentrer en chirurgie générale maintenant que ça l'était quand moi je suis rentré, il n'y a pas de doute là-dessus. On était des grosses cohortes, on était, tu sais, à McGill, je pense qu'on était 6 du CARMS, puis autant qui venaient de l'extérieur du Canada. On était beaucoup, beaucoup dans nos années. Maintenant, c'est des toutes petites cohortes.
Ouais, c'est la boîte,
on voit les CV des gens passer, puis c'est vraiment impressionnant. Là, ils ont beaucoup d'activités extracurriculaires, puis tout. C'est sûr que ces choses-là sont importantes. Mais je pense au bout du compte, le plus important, c'est les relations que tu développes. C'est les gens avec qui tu travailles qui vont être prêts de prendre le téléphone pour toi puis d'appeler quelqu'un pour dire « Cette personne-là, c'est vraiment... tu devrais la considérer. » Ça, c'est à travers ton parcours. C'est vraiment important de valoriser les rencontres. C'est les gens... Qui sont tes mentors, avec qui tu travailles cliniquement, avec qui peut-être tu fais de la recherche, peu importe quoi, de développer ces relations-là parce qu'ils vont être utiles. Ben un c'est intéressant comme étudiant ou comme résident de voir leur pratique, mais deux aussi, ils vont être utiles plus tard pour rentrer. Puis ça, c'est une des choses, en fait, qui m'inquiète un petit peu avec le COVID parce que je trouve, depuis, tu sais, le COVID, puis... avec peut-être aussi avec les années, je sais pas, mais certainement, il y a moins d'échanges sociaux, je trouve, là, entre patrons puis résidents, étudiants, qu'il y en avait avant. T'sais, je me souviens, nous, on allait au restaurant ou faire des activités à l'extérieur de l'hôpital avec nos patrons. T'sais, ça nous permettait de voir leur maison, voir leur style de vie, voir qu'est-ce qu'ils faisaient à l'extérieur, leur famille, de voir comment ils interagissaient socialement. Tu pouvais leur poser d'autres questions. Puis après, tu développes tes relations-là justement avec ces gens-là. Puis eux, après, ils vont prendre le téléphone et vont dire « Hey, Mathieu, tu devrais le prendre à mes gars, tu sais. » Puis ça, je trouve que c'est plus difficile présentement parce que je sais pas si c'est juste le COVID ou si c'est autre chose, mais... En tout cas, je trouve que ça arrive un peu... C'est moins automatique d'avoir comme ce lien-là. Puis je pense que c'est important à préserver.
C'est comme ça, c'est ça qu'on voit, justement, les types de médecins qu'on veut devenir, à quel type de personnes on relate un peu.
Oui, absolument, 100%, c'est sûr.
Puis c'est quoi votre highlight vraiment de votre pratique? Là, ce que vous aimez le plus, maintenant?
Ce que j'aime le plus, ça change avec le temps. Certainement, ce qui m'occupe de plus, c'est l'oncologie pulmonaire. C'est vraiment ce que je fais. J'ai le plus gros débit. puis l'oncologie pulmonaire actuellement, le timing pour être chirurgien thoracique actuellement, il ne peut pas être mieux. Là. Un, tantôt, je te disais que d'un point de vue technique, ça change, mais en oncologie pulmonaire, c'est vraiment fou ce qui est en train d'arriver. Là. La survie moyenne en cancer du poumon, là, all comers, tout le monde, à 5 ans, c'est à peu près 25%. Fait que, c'est un cancer qui tue vraiment beaucoup. Mm-hmm. Si tu compares à les autres gros cancers, là, colorectal, c'est 60-70%. Le sein, la prostate, tout le monde parle. La survie à 5 ans, c'est 90%. Mais le poumon, c'est encore en bas. Puis présentement, en termes de recherche puis de développement, le poumon, le cancer du poumon, est où est-ce que le sein était il y a 10-15 ans. Ça change vite. Il y a des gros, gros progrès qui se font, puis c'est vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment excitant de faire partie de ça, parce que ces progrès-là, c'est en périopératoire beaucoup, tu sais, à bas stade. Fait que c'est ce qu'on donne avant l'opération, ce qu'on donne après l'opération, des choses comme l'immunothérapie ou autre. Puis là, on commence à voir comme des résultats qu'on voyait jamais avant. Tu sais, que certainement, dans le début de ma pratique, c'était impossible. Puis on voit vraiment des avancées qui sont super impressionnantes. Puis on a la chance de participer à ce développement-là. Puis pour donner un autre exemple de des choses, des fois, quand tu es résident ou même étudiant, que tu vois pas venir, tu sais, tu penses pas à comment tu vas interagir avec les compagnies pharmaceutiques, puis la possibilité de participer à des essais cliniques pour tes patients. Puis ça c'est un aspect de ma pratique que j'adore, tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que, certainement, d'un point de vue clinique, de faire partie de ce boom-là de développement en oncologie pulmonaire, je trouve que le timing est vraiment, vraiment bon, puis c'est sûr que ça va juste s'améliorer. Fait que ça m'excite vraiment beaucoup dans ma pratique clinique. L'autre aspect de ma pratique, c'est j'en faisais moins en début de ma pratique. Là, j'essaie de vraiment focusser plus sur la recherche. Puis ma recherche, c'est en trauma. Fait que j'essaie vraiment de focusser là-dessus. Puis on essaie de développer des solutions techniques. Au fait, quand quelqu'un arrive puis est décédé, il décède devant toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour ramener cette personne-là à la vie? Puis on a des modèles qu'on développe actuellement sur animaux. C'est ce qui occupe ma capacité mentale à temps plein. Ouais. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus.
Puis à l'inverse, mettons la chose que vous voulez dire dans votre pratique, vous changeriez peut-être cet aspect-là?
Bonne question. Ce que je trouve difficile, ça c'est peut-être vrai pour. Je sais pas si c'est spécifique en pratique à moi, mais. Moi, dans ma pratique, je dois faire quand même pas mal d'administration. Tu sais, chef de ma division, puis c'est le fun, on développe plein d'affaires où est-ce qu'on est, mais il y a beaucoup de frustration reliée au système. C'est sûr qu'en tant que chirurgien, ce que tu veux, c'est d'être capable d'offrir à tes patients le meilleur soin le plus rapidement possible, d'avoir de la disponibilité au bloc opératoire. Puis ça, ça prend beaucoup d'énergie pour être capable de l'obtenir, pour être capable de le justifier, pour être capable de faire comprendre l'importance. Puis c'est probablement mes plus grandes frustrations dans ma pratique. Je pense que dans les dernières années, il y a eu un mouvement au Québec où est-ce que les médecins ont vraiment été retirés beaucoup de l'administration. Ils sont beaucoup moins impliqués dans l'administration hospitalière. Ça fait que ça amène des fois des décisions que peut-être en tant que médecin, tu trouves que c'est peut-être pas le mieux pour le patient.
Moins pratique sur le terrain.
Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est mes plus grandes frustrations.
Pour finir, on en a parlé déjà un peu, là, mais tu sais, des conseils pour des étudiants qui cherchent dans quoi ils veulent s'enligner. Pour vous, ça n'a pas été trop dur, mais avez-vous quand même des idées, des pistes pour ceux qui sont un peu mêlés?
Ben, je pense que c'est vraiment important d'aller parler au monde, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui est fait, de rencontrer les gens, puis d'essayer de voir juste à l'extérieur de leur pratique qui sont. Puis, si je pense à ça, là, sérieusement, ce que j'avais l'impression, quand j'étais étudiant, mettons, en résidence, ce que je pensais, ce que ma pratique allait être, puis ce qu'elle est actuellement, c'est vraiment différent. C'est vraiment pas ça. Puis l'affaire, c'est que t'as beau te préparer autant que tu veux, il y a plein d'autres affaires qui vont arriver, puis ça sera pas exactement ça. Puis c'est surtout, c'est que il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent avec à toi après pour aller dans différents aspects. Tu sais, j'en ai essayé plein, là, moi, dans ma formation. En début de pratique, j'ai fait beaucoup de chirurgie comme chirurgie globale, là, où est-ce que tu sais, j'ai travaillé un peu partout, puis j'ai passé un an à faire aussi aller dans les régions du Québec, puis tu sais, fait que j'ai essayé différents types avant vraiment de savoir qu'est-ce qui fitait avec moi. Fait que tu sais, je pense pas que c'est si important. Je pense pas que le choix est comme dramatique. Je pense que si tu choisis quelque chose qui t'attire, que tu aimes, que tu penses que c'est un bon fit, après, tu vas pouvoir rediriger ta pratique une fois, puis probablement que ce que tu veux faire va changer aussi. Mm-hmm. Ce que tu veux faire actuellement, puis ce que tu vas vouloir faire dans ta vie dans 10 ans, ça sera peut-être pas la même chose, ça sera probablement pas la même chose. Puis tu vas pouvoir rediriger ta pratique en conséquence, la majorité du temps, fait que... il y a plein d'affaires que je vois, que je fais, que je savais même pas que ça existait. Sérieusement, même comme fellow, là, je pensais même pas que c'était des options, puis maintenant, ça fait partie de ce que je fais. Fait.
Faut go with the flow.
Exact.
C'est rassurant de le voir comme ça.
Mais merci beaucoup, c'était vraiment une belle discussion.
Ça fait plaisir.